Jean-Antoine, il est l'heure de te lever. Jean-Antoine, il est l'heure de te lever.
Chaptime.
Chaptime.
L'interview du jour.
Actualité.
Biais d'humeur.
Revue de presse.
Micro couloir.
Ah, c'est compliqué à définir pour le coup.
C'est possible que les jeunes aient plus de vocabulaire que nous autres.
Ça veut rien dire.
Quelque chose de d'inouï, dont on trouverait difficilement le terme.
Je sais pas moi.
On en apprend tous les
jours. Je crois que je le connais, mais je suis pas sûre.
Non, c'est ridicule, pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans Chaptime, l'émission mensuelle de l'atelier radio du lycée Chaptime. Bonjour également à Ellie, Justin, Octave, Mathis et Gabriel qui nous accompagnent en cette belle journée. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, de l'actualité, de la culture musicale et vidéoludique, une interview pour partir à la découverte des métiers présents au sein du lycée et bien entendu les micro-couloirs. Je vais laisser la parole à Ellie qui va nous faire son billet d'humeur.
Bonjour Erin et salut à tous. Alors, Noël approche et je comptais vous parler de complètement autre chose, mais on m'a forcé, comprenez-le. Alors, vu que Noël approche, je me vois obligé d'en parler, mais j'avais pas d'idée. Du coup, j'ai repris une vieille habitude et j'ai écrit ma lettre pour le Père Noël. Cher Père Noël, cette année j'étais bien sage. J'espère que toi aussi. Cette année, j'aimerais tout d'abord que tu cesses de tant exploiter tes lutins. C'est vrai, il m'a semblé les apercevoir sous-payés sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde au Qatar. Ce ne serait pas un peu de l'esclavage ça, Père Noël ? J'aimerais aussi, si possible, que tu rétablisses la connexion Internet dans les chambres d'internat. J'ai toutes les semaines des recherches à faire sur Internet pour mes cours et je ne peux pas les faire quand je fais le reste de mes devoirs, à savoir le soir à l'internat. Je voudrais aussi, s'il te plaît, que les collégiens arrêtent de se bousculer, de crier dans la file du self et que nos emplois du temps sont plus vivables. J'aimerais également que l'évasion fiscale refile la goutte à ses pratiquants, comme mon voisin de palier, qui après 8 heures passées au PMU n'en trouve plus la sortie. On remercie d'ailleurs au passage Carlos Ghosn, qui nous montre que même l'évasion fiscale ne permet pas de s'évader d'un endroit clos. Je voudrais que la jeunesse d'aujourd'hui puisse développer une conscience politique et qu'il puisse l'exprimer librement, n'est-ce pas ? Je voudrais aussi, Père Noël, que Mariah Carey sorte un nouvel album. J'en ai marre de me taper la même chanson tous les ans pour Noël. Magnéto ! Mariah Carey, qui d'ailleurs, en tant que diva, est incapable de comprendre son public. Il est vrai qu'une femme de son rang dans son palais est bien loin des habitudes de ceux qui l'ont élu artiste. Et enfin, j'aimerais Papa Noël que la maxime écrite sur les façades des mairies françaises, liberté, égalité, fraternité, constitue réellement les valeurs de notre pays.
Merci Ellie. Je pense pas que tu auras tout ce que tu veux pour Noël, mais c'est bien essayé. On va rester à parler des fêtes avec la question que tout le monde va se poser à la rentrée. Alors, qu'est-ce que t'as eu à Noël ? Et parmi ces cadeaux, il y en a toujours un qui... Comment dire ? Il n'est pas celui qu'on attendait. Le cadeau qui ne fait pas vraiment plaisir. On allait faire un micro-couloir pour questionner les lycéens sur les cadeaux horribles qu'on a pu leur offrir à Noël.
Franchement, je m'en souviens pas. J'ai pas eu spécialement de pires cadeaux, je m'en fous des cadeaux.
Je sais pas, mon frère a déjà dû m'offrir des trucs pourris, mais je sais plus du tout. On a ça comme tradition chaque année, on s'offre des trucs qui valent pas très cher.
Un briquet, c'est ta sœur qui me l'a offert. Elle prend trop mal.
Une feuille d'arbre. Ouais, c'était de la merde. Après, ça dépend quelle feuille. Je rigole.
C'était un vieux pull moche de ma grand-mère, c'était dégueulasse.
Ah, du maquillage. C'est le pire, je déteste ça.
Un livre, je pense.
Oh.
Genre une BD ou... Non, un sac Little Marcel.
Un rouleau de PQ dédicacé par mes potes.
Une paire de chaussettes.
Un magnète.
Un poster. Poster, je sais pas quoi, il y avait plus. De. Pas fou.
Un livre de maths.
Clairement, un saucisson. Non, vraiment.
Des crayons de couleur.
Je sais pas, je pense à un pull, mais ça doit pas être le pire.
Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas trop de cadeaux horribles, étant donné que pour moi, c'est l'intention qui compte. Donc il n'y a rien qui m'est vraiment, une fois que je l'ai ouvert, où je me suis dit, mon Dieu, c'est horrible.
Pire cadeau qu'on m'a offert à Noël, ça doit être... Un livre, quand j'étais petite, c'était un livre que j'avais déjà lu et que j'avais détesté. Et qu'on me l'a réoffert, parce que c'était quelqu'un d'autre de ma famille qui me l'avait offert. C'était un livre de Martine que j'avais détesté. Et ça m'a marqué, ouais.
Et le problème n'est pas tant le cadeau, mais la réaction quand on nous l'offre. Écoutez les conseils des lycéens pour savoir comment réagir, même si l'on n'est pas satisfait.
La phrase à sortir, c'est yes, merci. Un truc dans le genre. Faut montrer que t'es un peu dégoûté.
Il faut redonner le cadeau à quelqu'un de sa famille. Je pense que la réutilisation et le recyclage, c'est important pour la planète. Donc, redistribution des cadeaux, c'est la bonne solution.
Ouais, c'est exactement ce que j'attendais pour Noël. C'est trop cool. Merci, mec.
Waouh, putain, trop bien, mec. En fait, c'est pas vrai du tout. Faut toujours mentir.
Merci, ça pourra toujours servir.
Ah, merci. Merci. C'est cool, j'aurais pas acheté ça, merci, quand même.
Ah, super. Trop bien.
C'est original.
T'es sûr que c'est pour moi?
Je sais pas.
C'est magnifique. J'aime beaucoup, merci.
Bah, merci quand même. Hein.
Ouais, super.
Oh, trop bien, je l'avais pas. C'est cool.
Oh, merci, c'est super gentil, je m'attendais pas à ça. Comme ça, on sait jamais, peut-être qu'il va comprendre que c'est pas à quoi on s'attendait. Et en même temps, ça fait plaisir.
Merci, c'est gentil. Moi, je remercierai parce que c'est l'intention qui compte, quoi. Du coup, c'est toujours beau, l'attention. Donc, même si peut-être qu'il me connaît pas trop ou peut-être qu'il a pas pris beaucoup de temps, moi, il a pris un tout petit peu de temps pour me l'offrir. Donc, je remercierai quand même.
Voilà, j'espère que cela vous aura aidé et bon courage pour les cadeaux. On passe tout de suite à la revue de presse. Avec Ellie, nous avons décidé aujourd'hui de nous intéresser à l'édition française du Youth Post. Pas question ici pour nous de parler d'actualité française, rabâchée par les médias nationaux. Nous allons nous intéresser à la ruralité et aux poules.
Eh bien oui, en termes de ruralité, on se dirige vers le Japon. Une démarche des communes rurales permet de recevoir une maison gratuite à la campagne, afin de repeupler, de dynamiser les villages fantômes qui sont en voie d'extinction.
Alors, il y a quand même certaines conditions. Être âgé de moins de 40 ans ou être en couple avec au moins un enfant de moins de 18 ans et un partenaire de moins de 50 ans. Également, il faut s'engager à s'installer définitivement et investir dans la modernisation et la rénovation de la maison.
Mais les familles préférant acheter du neuf, il est encore difficile pour ces maisons de trouver preneur. Ça pourrait être une bonne idée pour la Lozère. En parlant de Lozère, Erin, on va parler de poules.
Quelle transition, Ellie ! Oui, des poules, mais au Pakistan, où le Premier ministre a annoncé vouloir donner à chaque femme pauvre du pays une poule. Le but, développer son esprit d'entreprise, participer à l'économie du foyer, avoir une source potentielle de revenus et aussi tout simplement à se nourrir.
C'est une proposition qui a été moquée sur les réseaux sociaux et la presse pakistanaise car jugée naïve et inutile. Un système toutefois utilisé par Bill Gates et sa fondation dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Autre article du Youth Post. Céline Dion a frappé fort avec ses bottes en plumes d'autruche. Peut-être que les femmes pakistanaises pourraient lui envoyer des plumes. Tiens, Mathis, quelle drôle de musique.
Erin, voyons. Je vais vous parler aujourd'hui de musique électro et techno, avec l'artiste Marco Bailey, qui est DJ et producteur de musique électronique. Il vient de Belgique et son morceau s'appelle Wax. Son morceau est sorti en octobre 2007 dans un EP produit par un label qui s'appelle Primate Recording. Cet EP est sorti sur format vinyle et s'intitule Various. On retrouve dans cet EP des artistes comme Steve Payne, Trevor Radcliffe et John Warwick. Ce morceau peut vous rappeler des sonorités liées à la tectonique et ceci par sa bassline acide et distordue, qui pourrait éventuellement s'apparenter à une mélodie. Un autre élément intéressant à souligner, ce sont les percussions et les petits samples psychédéliques qui rappellent un style un petit peu old school d'avant les années 2000, juste avant les débuts de la tectonique. Bien, après cette présentation du morceau, je vous laisse l'écouter dans de bonnes conditions.
C'était donc Wax de Marco Bailey. Merci Mathis. Et toi Pierre, aujourd'hui tu vas nous parler de l'importance de la musique dans les jeux vidéo.
Oui Irine, et pour faire une bonne transition avec la partie musique de cette émission, je vais vous parler de Undertale, un jeu où la musique a une importance énorme. Donc c'est Undertale, le jeu où on peut gagner pacifiquement, celui où on peut parler avec ses ennemis, les complimenter, les draguer avant de leur voler leurs affaires et de se moquer d'eux pour les faire fuir, et où ça compte quand même comme une victoire pacifique. Oui, Undertale, le jeu indépendant qui est devenu un vrai pilier du jeu vidéo en plaçant au premier plan le concept des fins alternatives, celui de briser le quatrième mur, la fin génocide, et évidemment de la moralité, a débarqué sur l'industrie vidéoludique le 15 septembre 2015 et a été mis au monde par Toby Fox. Donc Undertale, même s'il commence à être remplacé par le dernier jeu en date de ce même Toby Fox, Deltarune, reste mondialement connu de la France à l'Angleterre, de l'Allemagne au Brésil, des USA à la Corée du... Non, pas en Corée du Nord vu qu'ils n'ont pas Internet. Mais bon, ce jeu reste super connu et il est tellement connu que je vais vous faire l'affront de vous l'expliquer et ce parce que je me paye votre tête. Alors, Undertale, c'est un jeu indépendant, c'est-à-dire un jeu édité par son auteur, et un RPG, c'est-à-dire un jeu du même genre que Skyrim, la série des The Witcher ou encore celle des Final Fantasy pour ne citer que certains genres de RPG très connus. Donc, dans Undertale, vous incarnez un enfant assez résistant pour survivre à une chute de 50 mètres depuis un trou dans le sol jusque dans l'Underground, un monde souterrain dans lequel vivent des monstres. Mais ne vous inquiétez pas, car ce sont des monstres gentils qui vont vouloir vous capturer pour prendre votre âme et s'en servir pour sortir de leur grotte. Mais vous pouvez les persuader de vous épargner et de s'en aller, ce qui vous donnera d'ailleurs dans ce jeu, si vous arrivez à ne blesser personne, une fin pacifiste. A contrario, si vous tuez tous ceux que vous rencontrez, espèce de psychopathe, vous obtiendrez une fin génocide dont vous m'avez entendu parler plus tôt si vous êtes attentif, et qui est tout à fait traumatisante de mon point de vue. Bien, passons maintenant au gameplay, ou à la façon dont le jeu se joue. Dans Undertale, vous incarnez pendant les phases de combat et lorsque l'ennemi vous attaque, l'âme de votre personnage symbolisée par un petit cœur rouge tout mignon. Et vous devez éviter les attaques ennemies de couleur blanche. Cœur rouge, couleur blanche, bon voilà. Me demandez pas comment vous faites pour faire bouger votre propre cœur à l'extérieur de votre poitrine, je suis pas sûr que le gamin que vous incarnez le sait lui-même. Donc, dans ces mêmes phases de combat, lorsque c'est votre tour d'agir, vous pouvez soit attaquer le ou les ennemis, soit interagir avec eux en leur parlant, en les complimentant, en les draguant. Et ce, à tel point que je pense que le personnage que vous incarnez est très probablement beaucoup trop extraverti. Enfin, si vous jouez à ce jeu, vous feriez bien d'y jouer parce qu'il est méga super quand même. Vous vous rendrez compte qu'il est de sa priorité que vous ressentiez de la peur, de la joie ou encore une forte détermination, clin d'œil aux fans, soit parce que vous serez en train de fondre en larmes devant une scène super émouvante, soit parce que, comme moi, vous avez tellement peu de vie sociale que vous vous amusez à analyser des extraits de films et de chansons. Ce genre de choses arrive. La chanson d'ailleurs, ou devrais-je dire la musique pour être plus exact, elle a une place plus que primordiale dans Undertale. Les airs de plusieurs de ses musiques sont agréables, émouvants, drôles. De plus, cette même musique peut être extrêmement diversifiée, avec des morceaux allant du mystérieux, avec Waterfall, c'est musique de la zone avec des chutes d'eau, comme les bilingues auront compris. Oh, elle peut très bien passer du mystérieux donc au joyeux avec Snowy, la musique de la zone neigeuse. Et ce, en passant par la folie furieuse, avec les connaisseurs l'auront deviné, Megalovania, célèbre pour le combat qu'elle accompagne, et le stress post-traumatique qu'elle aura sûrement provoqué chez ceux qui auront fait ce fameux combat. En effet, ce combat particulier est le plus connu du jeu, et ce pour la simple raison qu'il est sûrement l'un des combats les plus durs auxquels vous devrez faire face dans n'importe quel jeu. Vraiment, n'importe lequel. Alors voilà, c'était ma présentation d'Undertale par Toby Fox, et vous feriez bien de foncer y jouer si vous ne le connaissez pas, parce que j'en ai même pas évoqué la moitié du contenu, d'autant plus qu'on est bientôt Noël, alors vous saurez quoi demander à vos proches, ou même offrir à ce membre de votre famille qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, comme moi.
Nous venons d'écouter Pierre et j'espère qu'il vous aura convaincu de jouer à Undertale, un jeu aussi génial qu'addictif, suivant les dires d'Octave. Justement Octave, parle-nous des jeux vidéo.
Oui Erin, nous allons maintenant débattre autour des bienfaits et des problèmes liés aux jeux vidéo. En général, deux grands camps s'opposent sur ce sujet, ce sont les enfants et les parents. Alors que le premier demande plutôt l'accès à ces technologies, les seconds, eux, veulent généralement les restreindre. Avant toute chose, on sait qu'aujourd'hui les jeux vidéo posent problème pour beaucoup de personnes. En effet, on ne compte plus les reportages chocs de télévision montrant les ravages, car oui, c'est un véritable ravage, de l'addiction aux jeux vidéo. Alors, que l'on soit pour ou contre, on ne peut pas nier que l'addiction est néfaste pour nous. Des personnes addictes peuvent parfois passer des heures et des heures devant un écran sans manger, boire ou même aller aux toilettes. Ces mêmes personnes ont une vie sociale très restreinte à cause du jeu, que cela soit dû au temps de jeu ou bien au type de jeu qui peuvent favoriser l'exclusion sociale. Des jeunes peuvent, quant à eux, louper des cours ou bien être trop fatigués pour y être attentifs à cause de cette addiction. Mais ces cas sont rares comparés à la masse de joueurs. D'après l'Institut National de l'Image et du Dessin Animé, plus de 70% des Français âgés de plus de 6 ans auraient joué aux jeux vidéo récemment, c'est-à-dire dans les 6 mois. Ce qui est incompréhensible si on croit que les jeux rendent violents. Pourquoi donc jouerait-on aux jeux s'ils sont néfastes pour nous? Eh bien, tout n'est pas mauvais dans le jeu vidéo. Je vais aborder 3 points pour vous en convaincre, puis je laisserai la parole à Erin et les autres pour qu'ils puissent intervenir. Rassurez vos parents, les jeux vidéo peuvent servir à l'apprentissage. Que cela soit l'anglais, une évidence car on sait que plus de la grande majorité des jeux sont produits en anglais. L'histoire avec la série de jeux cultes, la série Assassin's Creed, où à travers un personnage historique inventé de toutes pièces, nous revivons l'histoire de grandes périodes historiques telles que la Révolution française, la première révolution industrielle, la Grèce antique et bien d'autres. La physique avec des jeux en 3 dimensions permettant d'apprendre des principes physiques simples. Les mathématiques ou bien le code avec des jeux s'utilisant même au collège, par exemple Scratch. Toutes ces matières sont présentes dans le paysage vidéoludique français et il serait dommage de ne pas les utiliser. En preuve de ce système d'apprentissage, on peut observer certaines initiatives créées par des enseignants mais aussi par des spécialistes du jeu vidéo. Par exemple, Kids Code est une initiative ayant pour but d'apprendre la logique mathématique et plein d'autres éléments pédagogiques à l'enfant par l'intermédiaire du jeu. Le jeu que Kids Code utilise est un dérivé du jeu Minecraft, un jeu où seule la créativité compte et où l'enfant peut entièrement s'épanouir tout en étudiant. Justement, Minecraft est un outil de créativité où la seule contrainte est nous-mêmes. Ce type de jeu peuvent permettre une évasion et un épanouissement personnel grâce à des projets que le jeu permet de faire à long terme et nous correspondant parfaitement car nous en sommes à l'origine. Plus qu'un outil de notre créativité, le jeu vidéo peut être un moyen pour le créateur de remettre en question des vérités et même d'introduire des débats philosophiques et profonds dans leurs œuvres, tout comme le ferait un peintre ou un poète. Mais ce support vidéo a l'avantage d'être dynamique et moderne, ce qui en fait un instrument pour pousser le joueur à la réflexion et à l'incertitude quant à ses propres convictions. Pour ce type de jeu, il est souvent question de jeux à choix où l'action des personnages nous est laissée et le choix de ces actions se font dérouler le jeu différemment. Le jeu le plus récent dont le débat et cette façon de jouer est présente est sûrement Detroit Become Human, dans lequel le rôle et la place de l'androïde dans le futur est discuté. D'autres jeux à choix peuvent même conduire à faire preuve de jugements moraux pour savoir si un choix est vraiment bon ou pas, tel l'excellent Life is Strange qui dans son final nous laisse un dilemme dont il faudrait trop de temps pour parler, tellement qu'il en est profond. Un argument beaucoup plus prosaïque peut simplement être la beauté d'un jeu. Aujourd'hui, les jeux vidéo et les écrans qui les diffusent atteignent des qualités incroyables. Les jeux peuvent être si beaux que l'on oublie d'être dans un jeu et nous pensons être dans un film. Ce rapprochement est d'autant plus vrai que dans des jeux comme Metal Gear Solid 4 et 5, les cinématiques peuvent durer jusqu'à 25 minutes où le joueur est un véritable spectateur du film scénaristique qui se déroule devant lui. Pour synthétiser mes idées, le jeu vidéo est un instrument pédagogique qui peut poser des questions qui ont un sens profond et incertain et qui aident à exploiter au mieux sa créativité. Mais il faut faire attention à ne pas en abuser pour ne pas tomber dans l'addiction qui, elle, est extrêmement néfaste pour soi, mais aussi pour les autres. Je pense que le jeu vidéo a vraiment sa place dans tous les foyers, mais je ne demande pas que tous jouent quotidiennement, ce qui deviendrait mauvais. Au contraire, je pense que tout comme la lecture ou le cinéma, le jeu vidéo devrait être utilisé, même consommé régulièrement, mais aussi être considéré comme un art.
un art libre d'interprétation et de jugement, ce qui aiderait le plus grand nombre à se cultiver, apprendre et à développer son ouverture d'esprit. Et c'est aussi pour cela que j'accepte les critiques liées aux jeux vidéo et comprends en quoi elles sont pertinentes. Finalement, et je le demande aussi à vous auditeurs, le précepte de l'art pour l'art, présent partout, est-il aussi présent dans le jeu vidéo, peut-être par l'intermédiaire des graphismes, de la morale ou bien encore de la créativité ? Je vous laisse le micro si vous voulez réagir.
Merci Octave pour ce long monologue et laissons place au débat. Qui veut commencer ? Pierre, je t'ai vu hocher la tête pendant la chronique d'Octave.
Oui, bon, j'espère que ça ne va pas passer pour de l'autopromo. Hein. Non, c'était juste par rapport au moment où Octave il avait parlé de l'importance des choix du joueur dans le jeu, généralement, justement pour tout ce qui est morale et tout. Bah, justement, en fait, j'avais oublié de le préciser. Je précise encore que ce n'est pas de l'autopromo. Hein. Justement, c'est vraiment le point d'ancrage de l'autre jeu que j'avais présenté, là, Undertale, et c'est tout.
Oui, tu peux choisir ce que tu vas faire, et c'est ton jugement moral. Voilà. Décide un petit peu ce que tu fais.
Voilà. Et c'est en ça que la fin génocide est vraiment traumatisante parce que on a envie de débloquer cette fin en tant que joueur en prenant de la distance.
Par le pouvoir du 100%.
Par au trophée.
Par rapport au jeu vidéo, on prend de la distance pour faire cette fin-là. Sauf que moralement, dans l'histoire, on voit des monstres qui nous supplient de les épargner et qu'on tue froidement et c'est très éprouvant. C'est très très éprouvant.
Moi, je voulais savoir, par rapport justement à la lumière bleue, est-ce que c'est pas dangereux pour le sommeil, les yeux, tout ça, enfin...
Alors, c'est comme n'importe quelle addiction. La lumière bleue, on sait que ça dérègle des cycles d'hormones qu'il y a dans le corps. Mais si, par exemple, on regarde des écrans avant d'aller se coucher, oui, ça perturbera notre sommeil. Donc, du coup, on va moins bien dormir. Mais si, par exemple, on laisse une période de 2 heures, peut-être, entre le moment où on regarde les écrans et des moments où on va dormir, alors, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment l'abus des écrans en général et leur vision jusqu'à des heures tardives au moment où on va se coucher qui peuvent poser des problèmes.
C'est des problèmes pour s'endormir, surtout.
Surtout pour s'endormir, oui.
Par rapport à la mélatonine.
C'est ça.
Alors oui, forcément, il peut y avoir des problèmes avec la lumière bleue. Bon, tout ce qui est hormones, honnêtement, je ne m'y connais pas. Mais par rapport à tout ce qui est problème pour s'endormir, bah, en fait, alors là, je parle vraiment en néophyte, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez présent. C'est un truc que j'ai trouvé sur mon PC il n'y a pas longtemps. Il y a une option qui permet à l'écran de rendre toutes les couleurs qu'il diffuse plus chaude, plus vers le rouge.
Mais c'est le mode nocturne, c'est ça ?
Non, c'est pas le mode nocturne, c'est vraiment un truc spécial où toutes les couleurs vont plus aller vers le rouge pour justement empêcher qu'il y ait trop de lumière bleue.
Ouais, un filtre à lumière bleue.
Il me semble que ça, que le cerveau interprète ça comme si c'était à peu près la journée ou midi ou des choses comme ça. Donc du coup, forcément, pour s'endormir, c'est moins efficace.
C'est justement à midi, il y a un pic de lumière bleue dans le ciel et ouais. Donc du coup, ça... Ça fait en sorte que la mélatonine qui est produite dans notre corps nous empêche de dormir. Alors que vers le soir, justement, il y a moins de lumière bleue en général sur la lumière naturelle.
Et plus de lumière rouge.
Exactement. Et donc, du coup, la mélatonine descend. Il y a moins de production de mélatonine et on peut s'endormir.
Ce genre de débat me dérange un petit peu parce que personnellement, si je suis vraiment fatigué, je n'ai pas de difficulté pour m'endormir le soir. Hein.
C'est sûr, mais ça peut dérégler le sommeil.
Je pense que ça peut gêner à forte fréquence ou des choses comme ça, mais personnellement, je ne me sens pas impacté par ce problème.
Et si justement on souffre de ce problème, il y a plusieurs solutions. Comme Pierre le disait, souvent il y a depuis l'écran ou des fois des petits logiciels intégrés à l'ordinateur, on peut changer la quantité de lumière bleue qui est produite par son écran. Ou bien il y a des logiciels tierces qu'on peut télécharger, comme Velux, si je me souviens bien, qui peuvent réduire la lumière bleue que les écrans émettent, par exemple, d'une heure précise à une autre, étant de nuit.
F, plus loin, Lux,
oui.
Il me semble qu'il y a aussi des écrans hein, qui sont faits pour ça.
Et oui, qui ont des modes nocturnes, ça se trouve.
Je crois que les liseuses, ça marche comme ça.
Et vous, dans l'histoire, vous avez déjà joué aux jeux vidéo ?
Oui, moi. Je joue aux jeux vidéo régulièrement. Après, ça peut dépendre aussi de type de jeu vidéo et tout le monde peut s'y retrouver. Donc, je sais pas pour vous quel type de jeu vidéo vous jouez.
Moi,
Non, allez-y.
Moi, lui, aucun problème. Lui, non. Vas-y, Mathis. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de Metroid Become Become Human. J'ai trouvé ce jeu extrêmement intéressant par sa ressemblance avec son réalisme par rapport à en fait l'histoire de ce jeu vidéo, c'est que les humains développent la technologie Android et donc les intelligences artificielles, et il se trouve que dans cet univers là assez futuriste, les androïdes sont tellement développés que certains deviennent entre guillemets déviants
et autonomes,
sentients plutôt.
Déviants. Ceux qui auront la référence.
Ouais.
C'est un jeu qui a une valeur morale très importante. C'est-à-dire que le choix est très profond. C'est-à-dire que on sent une espèce de racisme des humains pour ces androïdes. Et donc, on peut choisir si on favorise le fait qu'ils réussissent à avoir une sorte d'indépendance, ou l'inverse, qu'ils se fassent exterminer comme tous les génocides qui ont pu arriver dans l'histoire de l'humanité, par exemple.
Et même plus loin.
Justement, en fait, Mathis, tu avais parlé de racisme. Bah, justement, quelque chose que tu n'avais pas abordé, c'est que, en fait, justement, dans ce jeu-là, il y a un très, très fort parallèle qui est fait entre, justement, les androïdes dans la société montrée par le jeu et tout ce qui est esclavage et ségrégation par rapport aux États-Unis avant. Et à mon avis, c'est sûrement pas une coïncidence. Ouais.
Je voulais également rajouter qu'il y a une série sur ce thème qui se nomme Westworld. Mais il y a aussi une autre série disponible sur Netflix qui s'appelle Black Mirror et qui est très futuriste.
Parle de tout ce qui est nouvelle technologie et même des trucs très actuels. Il y a beaucoup d'épisodes qui...
Je pensais que ça parlait des réseaux sociaux, Black Mirror.
Ah non, pas... Un peu.
Il y en a un sur les réseaux sociaux. Un ou deux
épisodes qui sont sur les réseaux sociaux. Mais tous les autres, ça peut être dans des... Il y en a, je crois, qui se passe dans un monde presque post... Enfin, oui, même carrément post-apocalyptique. Et il y en a qui sont dans des mondes qui sont semblables aux nôtres, comme deux gouttes d'eau, quoi. À très peu de choses près,
D'accord, et cette série est dérangeante. Les épisodes sont indépendants.
Mais après...
Oui, les épisodes sont indépendants entre eux.
Cette série, je la trouve vraiment très intéressante, justement, sur le progrès humain, sur tout ce qui est au niveau robotique. Par exemple, je voulais parler des trucs en Chine, ou je ne sais plus si c'est en Chine ou au Japon, ils sont en train de développer un système de notes. Et plus tu es bien noté, plus tu es récompensé par l'État, et moins tu es bien noté, et plus tu risques d'aller en prison, de te faire tuer, ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qui s'explique dans un épisode, en fait, de Black Mirror. Et c'est vraiment une... C'est vraiment ce qui est en train de se passer, et c'est vraiment assez
quelque chose comme le je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un livre de George Orwell là,
où 1984.
Voilà, avec Big Brother et tout.
Mais après ça reste une série, et pour revenir sur les jeux qui engagent des choix moraux, au final on construit notre histoire, on construit le scénario de tout ça un petit peu comme un film, mais étalé sur plusieurs heures. C'est-à-dire 8 heures, 11 heures, etc. Un peu plus original, à mon avis.
Je connais aussi un jeu qui parle des choix moraux, mais sans... c'est pas vraiment un jeu sur lequel on va pouvoir avoir une influence dans l'histoire. C'est-à-dire que je les ai finis plusieurs fois, les deux opus, donc Portal 1 et 2. Ouais. Et oui, Portal.
Je pensais à un autre.
Mais c'est très intéressant du point de vue de la moralité et des IA aussi. Du rapport à l'intelligence artificielle. En très résumé, l'histoire, c'est vous êtes un humain, sujet de test, en fait, dans un grand complexe de laboratoire. Et vous passez donc beaucoup de tests avec un pistolet à portail qui vous permet de créer des portails pour passer d'un endroit à l'autre. Et vous allez avoir des salles de tests où vous devrez résoudre des énigmes pour passer la porte. Et tout au long de votre progression, il y a l'IA qui vous gère.
C'est qui gère tout le complexe.
Qui s'appelle GLaDOS et qui vous parle. Et c'est très intéressant. Elle a des réflexions très très intelligente et très des fois très très mesquine, très 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 sarcastique, mais parfois Des fois, elle peut poser des questions un peu sur l'existence.
C'est tout un développement de GLaDOS. C'est-à-dire qu'au début, elle est peut-être un peu distante avec nous, elle est très sarcastique, et puis au bout d'un moment, elle commence à poser des questions beaucoup plus humaines et beaucoup plus réfléchies, mais pas dans un sens logique.
Et oui.
Dans un sens justement, beaucoup plus sentimental.
Toutes les questions existentielles et tout. Alors je suis vraiment pas sûr de ce que je dis pour le coup, mais j'ai entendu dire que dans un jeu de la série Portal, ça porte pas le nom Portal, je crois, mais c'est un jeu de la série. Justement, je crois que dans un jeu ou un contenu additionnel, on apprend que...
C'est pas Half-Life, de base, non ?
De base, c'est Half-Life. C'est le même univers que Half-Life.
Ah bon ?
Parce que dans le jeu Half-Life, on est dans un centre de recherche qui s'appelle Black Mesa. Et c'est le concurrent direct de Aperture Laboratories, qui est la société dans laquelle on est dans la série de jeux Portal. D'ailleurs, dans le Portal 2, on apprend un peu mieux l'histoire de la société Aperture.
Non, en fait, ce que je voulais dire à la base, c'est que je suis pas sûr, mais je crois que justement, GLaDOS, c'est un esprit humain enfermé dans un corps de robot. C'est pour ça qu'il y a les questions existentielles et tout, je crois.
Oui, il y a une partie de cette IA qui est humaine, qui est l'ancienne assistante.
Elle est très mélancolique, non ?
Dépressive même.
Oui, elle est pas dépressive, GLaDOS. Elle est plutôt un peu sadique sur les bords et omnibulée par la science, parce qu'elle a été codée comme ça.
Omnibulée ?
Oui, omnibulée.
Merci messieurs pour ce débat qui pourrait continuer des heures, mais on n'a pas trop le temps. Donc on va poursuivre par cette rubrique culture avec la rubrique de Gabriel et Justin sur Charlie Parker.
Bonjour à tous, merci Erin de nous passer l'antenne pour continuer cette émission. La rubrique aujourd'hui sera sur le jazz. Donc Justin, qu'est-ce que le jazz ?
C'est un vieux style de musique avec de la trompette et du piano. Mais moi je suis plus rap, le jazz c'est pour les vieux en plus.
Mais pas du tout Justin, le jazz est un genre musical originaire du sud des États-Unis, créé à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Au sein des communautés afro-américaines. Et ce n'est pas un style de vieux. Regarde, je peux te citer beaucoup de rappeurs reprenant des beats de jazz, tels que Guru, le grand rappeur américain. Make me clench my fist. Then I'm caught up in the midst of the musical bliss. Blow a kiss to the ladies in my corner. Caress the mic and kick my game like I wanna. What? You never see the brother Guru falter. Respect is due, praise me like the altar. The crew, we're as true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Ah oui, je connais. Et du coup, on étudie quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va étudier Charlie Parker Jr., né le 29 août 1920 à Kansas City. Est mort le 12 mars 1955 à New York. C'est un saxophoniste alto de jazz américain. Parker est aussi surnommé le Bird, l'oiseau. Il y a un bar à Manhattan qui porte son nom. Et il est considéré comme l'un des créateurs et principaux représentants du style bebop. Mais c'est quoi le bebop ? Le bebop est un genre musical de jazz ayant émergé dans les années 1940 et 1950. Son influence s'étend à presque tous les styles de jazz. Les premiers enregistrements datent de 1945, avec Louis Armstrong, Miles Davis et Duke Ellington. Charlie Parker compte parmi les musiciens les plus importants et influents de l'histoire du jazz.
Ouais, mais c'est quand qu'on parle de rap ?
Laisse-moi continuer sur Charlie Parker.
Ok, mais fais vite.
Fils unique de Charlie Parker Sr., pianiste et danseur itinérant, puis Stewart dans les chemins de fer, et Daddy Parker, amérindienne d'ascendance Choctaw, le jeune Charlie chante dans la chorale de l'école, dont Kansas City est à l'époque la capitale, puis se passionne pour le jazz, en même temps que celle du jeu, de la prostitution, de la drogue et du trafic d'alcool. Nous sommes sous la prohibition. Dès 11 ans, Parker commence à jouer du saxophone pour intégrer l'orchestre de son école.
et donc il l'intègre à 14 ans. De nombreux témoignages concordent pour affirmer qu'il montre dans ses jeunes années un talent exceptionnel pour la musique. À cette époque, à Kansas City, les musiciens des grands orchestres de jazz comme celui de Count Basie luttent pour la reconnaissance dans des jam sections, lieu d'affrontement sans merci où tout est possible mais qui offre une émulation exceptionnelle aux jeunes musiciens comme Charlie Parker, ainsi que l'espoir qu'un jour, eux aussi pourraient rivaliser avec les meilleurs. Il parvient à intégrer des orchestres de Kansas City pour quelques dates et travaille sa technique auprès de Buster Smith. Il est très respectueux des virtuoses de l'instrument, comme Coleman Hawkins, Lester Young, Jimmy Dorsey, Johnny Hodge et des maîtres du jazz en général, comme Louis Armstrong, qui représente la maîtrise totale. Charlie travaille sans relâche en écoutant sans fin les disques qu'il parvient à écrire, repiquant les solos des maîtres de l'époque et les rejouant note pour note. Alors, cette pratique est extrêmement répandue chez les musiciens de jazz. La seule école de jazz consistant à reproduire à l'oreille les phrases des meilleurs musiciens. En 1937, il intègre finalement l'orchestre du pianiste James McShann, avec qui il effectue une tournée dans toutes les régions jusqu'à New York. Il enregistre ses premiers morceaux, dont The Jumping Blue, en 1942, où il interprète un solo court mais éblouissant.
Ça date d'avant-guerre, ça?
Alors, pas du tout. Ce morceau date de 1970. Il faut savoir que ce n'est pas une composition de Charlie Parker, mais de Jay McShann, et qu'il improvise seulement dedans.
Ouais, bref. Et c'est quand qu'on passe au rap?
Alors, si tu veux, hein, puisque tu veux entendre du rap, j'ai un air de rap à te proposer, mais ce n'est pas de Charlie Parker, mais de Quincy Jones, qui est aussi un grand jazzman. C'est lui qui a réalisé ce morceau, mais il ne chante pas dedans. Cette musique s'appelle « Back on the Block ».
Let me kick my credentials. A young player bred in South Central LA, home of the body bag. You wanna dive, wear the wrong color rag. I used to walk in stores and yell, lay down. You flinch an inch, AK spray down. But I was lucky cause I never caught the hard time. I was lucky to steal the bust a dope rhyme.
Ouais, le jazz, c'est pas trop pour moi. Bon, du coup, je te laisse et joyeux anniversaire.
La jeunesse d'aujourd'hui. La prochaine fois, j'arriverai à le convaincre.
I just kick thick game. Some people say why? Cause I'm back on the block. I got my life back. So I school the fools about the fast track. I get static on the style of my technique. Profanity, the blade way in which I speak. But the dude knows the streets ain't no kiddie game. You don't know the dude? Quincy's his first name. He told me, Ice, keep doing what you're doing, man. Don't give a damn if the squares don't understand. You let them tell you what to say and what to write. Your whole career be over by tomorrow night. Rap from your heart, and your heart's with the street. Rap on my record, man. Come be, go send Ice to beat. The dude is deaf, he's back. What can I say? The man can roll with Ice-T or Michael J.
Back. Back on the block. So we can rock with the soul, rhythm, blues. Bebop and hip-hop back on the block.
on the block, on the screen. I'm on the wax, I'm on the stage, I'm on the scene. I'm on your case just like an attorney. The dude took me on a magic journey to dance in France, alone in Rome, on the farmlands in Nebraska, the cold of Alaska, the heat of the motherland, to be with my brother man on top of a snow-capped mountain. I'm scouting what another man saw in a race of people, to see him give his life for the price of equal, the highest wisdom, the richest kingdom, the song of songs we heard David sing them. He showed me me when I was young and hung out. He showed me making love, even showed me strung out. He showed me pumping iron, standing on the rock, but tears came to my eyes when he showed me my block. Before this, the bliss that exists, but now we brought about a twist. Cause I remember reading of my people bleeding, put through slavery and killed for bravery. We should have got our freedom much sooner. You never seen a black man on the honeymooners, but now somehow we've learned to earn the growth to show the elevation of our people built this soul. Jesse Jackson, Miss America, a black one. No more living for just a small fraction. I was once told by the dude that knowledge is a food to nourish. So to conclude, this from an Asiatic descendant, Big Daddy is shot. The Q be back on the block.
Back on the block. Back on the block. Back on the block. So we can rock it with the soul, rhythm, blue. Be poppin' hip hop. Back on the block. Back on the block.
An everlasting omnipresence is my present state of being, seeing the unpleasant sight of righteous souls live like peasants. The mind stunts growth and adolescence. My insight enables me to enlighten the weakest of minds, and I put him in flight as I transcend, ascend or descend, recreate, reincarnate and reset the powerful spirits of our ancestors. For those that don't know how God blessed us, because man messed up, the media dressed up lies, perpetrated as truth, and it left us confused. But I've seen it all before, from Babylon to the Third World War. I'm more than a man, I'm more like an entity. Back on the block, and this time my identity.
De la musique au jazz, c'est étrange. Justement, on est allé questionner les jeunes du lycée Chaptal pour savoir quels titres tournent en boucle sur leur téléphone.
Alors, on écoute différents styles musicaux. Ça va de la musique psychédélique au rap. Ça passe même par le jazz, par le heavy metal, par le rock, par le blues, toutes sortes de styles musicaux. On est un lycée très ouvert au lycée Chaptal, venez chez nous.
Donc en ce moment, ce que j'écoute beaucoup, parce qu'on le joue aussi avec des amis, c'est Autumn Leaves, donc c'est un morceau de jazz.
Donc moi, c'est Back on the Block de Quincy Jones. Écoutez, vous allez voir, c'est vraiment incroyable.
Moi, j'écoute du nightcore.
Moi, du metal.
Un peu de tout.
Ouais, pareil.
Zombie des Cranberries.
La K-pop.
Le rap.
Solo de Jenny.
J'écoute beaucoup d'Electro Swing, Body Swing et c'est Par of Stellar.
Alors moi j'écoute de la très bonne musique, de la trance. Et mon morceau préféré, c'est Gayatri de Highlight Tribe.
Too Cheap, principalement du rap. Imagine Dragons, Bullet in a Gun.
Et surtout du vieux rock. Et non, j'ai pas de chansons qui tournent en ce moment.
Principalement, j'écoute des trucs genre électro, plutôt calme, comme c'est relaxant et puis ça m'aide à dormir, donc c'est cool. San, d'Aurel San. Ça fait rire, réfléchir et c'est drôle.
Metal, hard rock, heavy, je sais pas, la musique qui bouge.
Pour ma part, ça dépend un peu de ce que je fais autour, mais en général, j'écoute pas mal de techno et d'électro en général. Et ça, le style, ça dépend vraiment de ce que je fais, si j'ai envie de me réveiller, j'écouterai des trucs un peu plus énervés, de travailler des trucs un peu plus calmes. Mais ouais, beaucoup de trucs dans le style. C'est des musiques mongoles, j'aime la musique mongole. Chuvantoa, trop drôle.
J'écoute pas de musique.
J'écoute pas de musique en ce moment parce que j'ai plus de 3G, donc Radiohead, Creep, mais bon, je l'écoute depuis toujours, donc ouais, je m'en lasse pas de cette musique.
K-pop, c'est très écouté.
Du rap, Château de Sable de Big Flo et Oli.
Moi du rap.
Moi des musiques de Noël.
Un peu tout, du reggae, de la trance.
Moi, c'est Billet Vert de Maes.
C'est Grave de Edith Preto.
Et moi, c'est Where is YY de Pixies.
C'est pas, hein. Un peu de tout, on est très ouvert.
Qui dit mieux de Gringe?
Uniquement du Jap. Ikusa.
Wakagi Band.
J'écoute pas de musique, ça tombe bien.
Alors, en ce moment, j'écoute du rap français, genre Gaël Faye, tout ça. Flou de Angèle.
J'écoute un peu de tout, en fait, c'est ce qui passe, soit à la radio, soit même quand je suis dans le bus, je suis avec des amis, ce qui passe. Ce que eux, ils écoutent, en fait, moi, j'aime bien. C'est la diversité que j'aime bien, donc... En ce moment, je pense que c'est une musique d'un groupe espagnol que j'écoute très souvent. C'est le groupe Mecano que j'écoute et cette musique, c'est Hijo de la Luna que j'écoute beaucoup en ce moment.
Finalement, au CHAP, on n'est pas si fermé que ça, on écoute de tout. Dans chaque émission, nous allons nous intéresser à certains métiers présents au sein de notre lycée. Justin, qui es-tu allé interroger ?
Eh bien, je suis allé m'intéresser au métier de la conseillère principale d'éducation avec Madame Gros-Claude. Bonjour Madame Gros-Claude, vous êtes conseillère d'éducation au lycée Chaptal. J'ai quelques questions à vous poser.
Oui, bonjour. Donc je suis conseillère principale d'éducation au lycée Chaptal.
En quoi consiste votre métier au sein de cet établissement ?
Alors, ce serait très long à décrire entièrement, donc je vais essayer d'aller rapidement dans les grandes lignes. Donc, nous sommes les héritiers plus ou moins directs ou indirects des surveillants généraux de l'époque. Dans un lycée comme le lycée Chaptal, je suis donc chef du service de la vie scolaire et j'ai en charge donc le service des surveillants ainsi que le service des internats. Et sinon, mon travail en journée consiste à m'occuper des élèves en dehors des heures de cours, quand ils ne sont pas en cours.
À quoi ressemblent vos journées au lycée Chaptal ?
Certaines journées ressemblent à des marathons. D'autres sont un peu plus tranquilles. Mes journées, je ne les vois pas passer, elles sont passionnantes. Elles ressemblent à des échanges, des rires, quelquefois des inquiétudes aussi. Voilà, mais c'est très riche en échanges humains, en tout cas.
Combien êtes-vous de CPO au lycée ?
Nous sommes 3 CPO au lycée, 2 personnes à temps plein et un collègue à mi-temps.
Comment vous répartissez-vous le travail ?
Alors, le travail est réparti de la façon suivante. Moi, j'ai un niveau de classe qui sont donc le niveau de première et deux classes de terminale. Ma collègue qui est à temps plein a toutes les classes de seconde et une classe de terminale. Et le collègue qui est à mi-temps, lui, a deux classes de BTS et deux classes de terminale.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre lycée, dans ce lycée et dans votre travail ?
Dans ce lycée, ce qui me plaît le plus, je crois que ce sont les élèves, parce que les élèves sont des jeunes qui sont ouverts, gentils, qui sont principalement issus donc du département. Quelques-uns viennent d'un petit peu plus loin, mais en tout cas, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des élèves formidables.
Qu'est-ce qui vous plaît au lycée ?
Ce qui me plaît dans le lycée, après, c'est le cadre de vie, le cadre d'exercice de ma fonction. La situation du lycée dans la ville. J'ai une belle vue depuis mon bureau et c'est peu de le dire. Voilà, et puis l'ambiance générale au lycée aussi me plaît quand même beaucoup.
Est-ce facile de travailler en tant que CPE ?
Ici à Mende, oui. Au lycée Chaptal, oui, c'est facile. Par contre, si j'étais ailleurs, je ne sais pas. Au dire de certains collègues qui sont dans des grandes villes et dans des établissements plus difficiles, bien évidemment, ça doit être moins facile que moi, mon travail ici.
Merci d'avoir pris de votre temps et de nous avoir laissé vous interviewer. Bonne soirée.
Merci, bonsoir.
Et nous allons terminer cette émission par le mot mystère.
Dans chaque émission, nous allons demander aux élèves du lycée de nous définir un mot et de l'utiliser dans une phrase. Aujourd'hui, intéressons-nous au mot pétrichor. Je vais vous le définir. Il s'agit d'une substance responsable de l'odeur caractéristique consécutive à de fortes pluies sur un sol sec. On peut donc l'utiliser comme ceci. Ça sentait bon le blé et le pétrichor. Nos étudiants connaissent-ils ce mot ? La réponse de suite.
Là, c'est pétrichor. Et le but du jeu, c'est de deviner le sens du mot et de le placer dans une phrase. Alors du coup, à votre avis, ça veut dire quoi, pétrichor ?
Un tricheur ? Pétrir ? Non, j'en sais rien. Il essaya de pétrichor. Non, je sais pas.
Pétrichor ?
Pétricor. Ouais, ça fait pétri et cor. Genre pétri comme pétrir du pain et cor comme un corps d'arme.
Plutôt pétrir comme pétrir du pain, effectivement, mais cor plutôt comme chorale.
Arrête, sinon je vais te pétricor.
De pétricorer ? Demain, je m'en vais pour pétricorer de belles hameçons.
Ça fait penser à picorer.
Ah ouais.
Pétrichor ? Je sais pas, moi. Moi, je verrais un fromage. Moi, j'ai mangé un pétrichor hier avant le dessert. Il était bon, hein. Il était pas trop sec. Il était bien fait.
Alors, pour moi, pétrichor, ce serait un animal, un prédateur, qui, quand il attraperait ses proies, enfin, il les prendrait dans ses petites pattes de devant. Et il les écraserait sur le sol pour les achever. Comme ça, après, c'est plus facile à manger. Alors, j'étais dans la forêt, tranquillement. Je faisais une petite balade avec un guide. Et puis après, on a vu un petit nid de pétrichor. Donc, il nous a expliqué ce que c'était et son régime alimentaire. Et que c'était assez protégé de nos jours dans nos régions.
Pétrichor ? Ça veut rien dire.
Donc, ce serait pétrir comme on pétrit la pâte. Short, version anglaise, donc c'est pétrir tout petit, voilà, pétrichor. Ou bien ce serait un animal qui a la capacité de pétrir, de faire du pain, un pétrichor, un peu comme un hippogriffe, mais version pétrichor, quoi. Voilà, ou un Pokémon. Mon pétrichor est parti en retard ce matin, la fournée ne sera pas bonne. Non, c'est ridicule, pardon.
Pétrichor ? Je crois que je le connais, mais je suis pas sûre. Est-ce que c'est l'odeur de la pluie ou un truc comme ça ? Ouais, je faisais une balade hier et tout, et ça sentait pétrichor.
Pétrichor.
Oh là. Je sais pas du tout.
Il y a aucune racine, je sais pas. Pétrichor. Ça existe ?
Pourquoi ça me fait penser à pétrir, moi ? Cette personne qui pétrit.
Ça existe vraiment. Mais je sais pas si ça se mange, je sais pas ce que c'est. C'est assez...
Pétrichor. Alors, c'est compliqué à définir pour le coup. J'ai droit à des indices ?
C'est un nom commun.
Oui, merci. Ah, attends, ça me dit un truc. Le pétrichor. C'est pas un machin avec la pluie ?
La pluie que prend le sol.
Ça sent le pétrichor ?
Alors, c'est pétrichor.
Je
Je sais pas, c'est une pâtisserie, non, Pétrichor?
Alors, on a pétri, qui peut faire penser au verbe pétrir, donc malaxer, et chore...
Chore qui peut faire penser à une encre de bateau. En
chore. Tout à fait.
Exactement.
Du coup, oui. On pétrit une encre de bateau. Voilà. C'est l'action de pétrir l'encre.
Un terme du marin boulanger.
Exactement.
Voilà, on peut le dire. Qui a pétri des encres.
Qui pétrit
voilà,
ses encres pour caser une forme et
pour caser une belle forme de pain, oui. Et de croissant, plutôt, parce que c'est un petit peu
oui,
arrondi.
Voilà. Hein.
Bon, alors, tu travailles dans quoi, toi, en ce moment?
Ben, moi, je pétrichore, moi. Je suis pétrichoreuse.
C'est vrai? Ah, tu pétrichores à bord du porte-avions Charles de Gaulle?
Exactement.
C'est vraiment incroyable, quoi.
Exactement, pétrichore.
Pétrichore, ouais.
Une odeur de pluie. Pétrichor veut dire qu'il y a une odeur de pluie.
Et alors, comment tu l'utilises dans une phrase? Ça sent le pétrichor, non?
Exactement.
Non.
Exactement.
C'est impossible, ça.
Si, c'est
ça
après la pluie.
Ça sent le pétrichor.
Ça sent le pétrichor.
Ça sent le pétrichor.
C'est une odeur de pétrichor, une odeur de pluie.
Eh bien, merci. Tu viens de mettre un mot sur une sensation que j'éprouve depuis 38 ans et que je ne savais pas qualifier. Merci beaucoup.
De rien.
Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission en direct des studios de 48FM. Nous vous retrouvons en janvier en direct et en public du lycée Chaptal dans le cadre de la quinzaine des arts avec l'équipe de Los Actuali. En attendant, portez-vous bien.
Jean-Antoine, il est l'heure de te lever. Jean-Antoine, il est l'heure de te lever.
Chaptal.
Chaptal.
L'interview du jour.
Actualité.
Biais d'humeur.
Revue de presse.
Micro couloir.
Alors, c'est compliqué à définir pour le coup.
C'est possible que les jeunes aient plus de vocabulaire que nous autres.
Ça veut rien dire.
Quelque chose d'inouï, dont on trouverait difficilement le terme.
Je sais pas moi.
On en apprend tous les jours.
Je crois que je le connais, mais je suis pas sûre.
Non, c'est ridicule, pardon.